Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
D'où vient cette idée?
En fait,
moi qui vous interroge.
J'ai fait un reportage sur le Sénat il n'y a pas longtemps. Et en discutant avec un sénateur, il m'a dit, on revenait sur les accrochages entre l'exécutif et le Sénat. Et il me parlait de, oui, il y a évidemment les grandes phases d'opposition entre Gaston Monnerville et De Gaulle. Et le nom m'est resté, je me suis dit, bon, c'est un nom que je n'avais jamais entendu. Donc je l'ai cherché tout bêtement sur Google et je suis tombé sur des photos, des vidéos et j'ai halluciné de voir, quand j'ai lu sa bio, de voir que pendant 21 ans, le Sénat était dirigé par un homme noir et que moi je ne le savais pas.
Et on fait tout pour qu'on ne le sache pas peut-être.
Et c'est, bah moi en tout cas, ça m'interpelle. Je suis à peu près normalement au fait de l'histoire de mon pays, de la 5e République. J'ai fait des études d'histoire, bah c'est dramatique. Donc j'ai eu envie de m'y intéresser un peu. Voilà pourquoi je suis là.
De Gaston Monnerville, l'histoire gardera l'image de l'homme qui osa s'opposer à De Gaulle. Tout dans la carrière de cet avocat né en Guyane, d'un père martiniquais, est marqué du sceau de l'exception. Il fut ainsi le premier citoyen de couleur, issu d'une ancienne colonie, à accéder au deuxième rang de l'État. C'est évidemment la page la plus illustre de sa vie. Et c'est en tant que président du Sénat qu'il affrontera De Gaulle.
Je suis l'un de ceux, on le sait, qui ont provoqué son départ en le faisant battre au référendum. Je n'attire aucune gloire, mais pour les idées que je défends, oui.
Salut, c'est Thomas Rozek. Vous l'avez compris, je pense, on va parler dans cet épisode de quelqu'un qui s'appelle Gaston Monnerville et que sans doute, comme moi, vous ne connaissez pas. Moi, c'est ça qui principalement m'a intrigué, sa vie et surtout son absence complète de notre mémoire, alors qu'il a un parcours exceptionnel. Et que je vais me répéter, je vais le dire plusieurs fois d'ailleurs dans cet épisode, mais c'est pas grave, c'est quand même pas anodin de se rendre compte qu'on ignorait complètement qu'un homme noir avait dirigé pendant 21 ans le Sénat, que pendant toute cette période-là, il avait été le deuxième personnage de l'État, et qu'il avait failli donc, techniquement, être président de la République plusieurs fois, puisqu'il a été remplacé en 68 quand il a démissionné par Alain Poher, qui lui a été deux fois président de la République par intérim. Donc c'est passé vraiment très très près pour Monnerville. Alors je me suis mis en tête d'enquêter, d'essayer de comprendre pourquoi Monnerville avait disparu de notre histoire commune. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Alors j'ai un peu de mal à multiplier les sources, il n'y a pas beaucoup de monde qui a bossé sur le sujet. J'ai quand même eu un petit coup de bol, c'est qu'en discutant avec l'équipe de Binge, ma camarade Diane m'a signalé que Kevin Donna donc du podcast Le Chip, parlait de Monnerville dans Le Paris Noir. Le Paris Noir, c'est ses balades, c'est des visites guidées dans Paris qu'il fait sur les grandes figures noires françaises. Et donc Monnerville, il en fait partie. Donc voilà, j'ai passé un coup de fil à Kevin, je lui ai demandé de passer chez Binge pour en discuter et je vais aller en causer avec lui. Là, je l'attends, il va pas tarder à arriver.
Est-ce qu'on peut s'asseoir là? Bon, on va se mettre dans les plantes.
Ouais.
T'arrives à te faire une petite place? Et les mecs s'assoient dans la haie, quoi. Ah yes, il y a des travaux. Oh. Nickel.
Toi, là, un personnage comme Gaston Monnerville, tu t'es tombé dessus comment, tu te rappelles?
Le nom m'est familier parce que j'ai grandi en Martinique et donc les noms de grands personnages de l'histoire de l'outre-mer, il y a peut-être des rues ou des avenues, des trucs comme ça, ça me disait quelque chose, mais je connaissais pas l'ampleur de... Ouais. De son œuvre, on va dire, de tout ce qu'il a fait, du rôle politique qu'il a occupé pendant plus de 20 ans.
Ouais. Ouais.
Je l'ai appris relativement récemment, notamment à travers mon travail de guide,
Ouais.
J'avais un sentiment de culpabilité en me disant voilà, je suis martiniquais, je suis noir, je suis guide à Paris, j'ai fait des études de sciences politiques et je connais pas l'histoire de Gaston Monnerville ou de Félix Hébaud, de personnages comme ça. Donc c'est petit à petit, en regardant, en fouillant, en cherchant, que j'ai trouvé une plaque dans le 16e avec son nom, un buste dans le 6e arrondissement près du Luxembourg avec écrit dessus « Fais ce que tu dois » parce que Monnerville c'était un peu un homme de devoir, des interviews, des choses comme ça qu'il a pu donner. Et ouais, c'est un personnage hyper dense. Quand j'en parle à des étrangers, principalement des Noirs américains, ils sont surpris. Alors du coup, ils ont des questions parfois un peu naïves. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme en France? Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de racisme et que tout allait bien? Certainement pas. Et puis, lorsque j'en parle à des Français, toute origine confondue, oui, effectivement, la première question, c'est pourquoi on n'en a pas entendu parler?
Ouais.
On dit souvent que... Les enfants noirs en France, ils n'ont pas d'exemple à suivre, ouais, de gens comme ça. En fait, si, il y en a quelques-uns qui ont vraiment occupé des positions hyper importantes, mais... Ouais.
T'as un début de réponse, toi, de savoir pourquoi ce type a disparu de notre histoire collective, alors que, par exemple, même s'il n'est pas super connu, mais le nom de quelqu'un comme Alain Poher a pour le coup survécu, enfin, ouais, qui est donc l'homme qui l'a remplacé à la tête du Sénat et qui a été deux fois président par intérim après.
Ouais. Je n'ai pas de réponse définitive. Je pense que des deux côtés, il y a des malaises, en fait. Là, du côté, évidemment, du côté hexagonal, du côté français, blanc, on ne fait pas trop attention à cette histoire-là. Donc, du coup, ça ne compte pas et on n'en parle pas. Et comme ça, ça arrange tout le monde. Il n'y a pas besoin de se comparer ou d'avoir hommage à rendre à ce personnage-là. Et puis, du côté de l'outre-mer, je pense qu'il y a aussi des questions sur certains choix politiques de Monnerville. C'est un grand partisan de la départementalisation, d'une forme d'assimilation aussi. Et en fait, aujourd'hui, tout ça est remis en question pour plein de raisons politiques très internes. Et donc, du coup, on n'est pas toujours très à l'aise, je pense, lorsqu'on se retourne et qu'on regarde ces grands personnages politiques des colonies qui ont été des grands serviteurs de la République, de la France dans les années 40, 50, 60. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire. On se demande s'ils n'ont pas été bernés ou est-ce qu'ils n'ont pas juste servi leurs propres intérêts politiques personnels à eux. Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de ce que voulaient les populations des Outre-mer? Donc voilà, toutes ces questions-là se posent lorsqu'on parle de Monnerville, je pense.
On pourrait bien évidemment donner des définitions de doctrine de la République, mais moi je la vois surtout sociale, c'est-à-dire égalitaire, fraternelle, faisant effort pour que, quel que soit le pays d'ailleurs, et peut-être plus spécialement dans le nôtre en France, pour que l'être humain puisse vivre dans le bonheur politique, le bonheur social, le bonheur civil.
Alors, je suis rue de Vaugirard à Paris, juste à côté du Sénat. Je vais aller rencontrer le sénateur de Guyane, Georges Patient, qui préside la Société des Amis de Monnerville. Et je vais aller lui demander pourquoi, d'après lui, tout simplement, Monnerville a disparu de l'histoire de la Ve République.
Je crois que le terme employé convient à ce que l'on peut penser quand on a cherché à s'informer sur Monnerville et qu'on découvre tout ce qu'il a pu réaliser dans le cadre de cette République et pour cette République, et qu'il demeure aussi inconnu. Donc on est amené à se poser la question. Et la réponse qui vient tout de suite, c'est pas uniquement, même si ça joue certainement un rôle, le fait qu'il soit noir, qu'il ait toujours déclaré et porté haut et fort qu'il était un fils d'esclave, qu'il était toujours petit-fils d'esclave libéré. Donc ce fait, sa couleur, mais le fait que d'autres hommes noirs se trouvent, par exemple, au Panthéon, comme Félix Eboué. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait en sorte que Félix Eboué soit au Panthéon. Césaire, tout récemment. Donc, on ne peut pas dire que c'est le seul argument qui plaide dans le fait qu'il soit aussi inconnu, pour avoir été quand même un homme aussi important dans l'histoire de la France. Bon, je crois que, et là je le vois encore actuellement, ce qu'on lui reproche, et là, pour l'instant, les lobbies sont encore très forts, très puissants, c'est le fait qu'il ait dit non au général de Gaulle.
Oui.
Je pense que c'est ça, puisqu'à maintes reprises, en tant que président de la Société des Amis de Gaston Monnerville, profitant de ma présence en tant que sénateur, de mes relations avec les gouvernements en place, hein, mmh. Je ne le cache pas, j'ai été membre du PS, j'avais soutenu la campagne de François Hollande en Guyane, et à maintes reprises, j'ai fait des interventions pour qu'il soit panthéonisé. Ça n'a jamais été couronné de succès. Bon, je suis maintenant dans le mouvement En Marche. À plusieurs reprises, je suis intervenu auprès du gouvernement en place. Et jusqu'à maintenant, aucune réponse positive n'a été donnée. Pourtant, j'ai posé la question de vive voix au président Macron. Bon. Qui rapidement a reconnu lui-même que c'était une opposition forte des gaullistes.
Quelle image il a, si tant est qu'il en est une d'ailleurs, en Guyane, Monnerville ? Est-ce qu'il est connu de ses anciens administrés, en tout cas de ses anciens compatriotes, parce qu'il est lui-même originaire de Guyane ?
Ah oui, ça c'est certain. Bon, Monnerville est connu en Guyane, hein. D'ailleurs, plus sur son petit nom de Timomo, hein, pour ceux qui,
c'est vrai
pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté et qui ont transmis à leurs enfants. Donc bon, c'est vrai que c'est Monnerville, c'est Timomo. Alors bien sûr, le premier sentiment, c'est la fierté, la grande fierté de voir que ce jeune natif de Guyane a pu atteindre les plus hauts sommets de l'État, surtout à une période où on n'osait même pas parler de diversité. Vous vous rendez compte, voilà un jeune qui arrive en France, boursier, dans un pays où on sort à peine de l'esclavage officiel et qui rivalise sur les bancs d'école avec les meilleurs élèves de France, hein, parce que bon, il a eu énormément de prix à Toulouse, il réussit brillamment dans le barreau, il devient élu local, je dis local en Guyane, député maire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cet homme noir, hein, alors que bon, on est dans un pays où il y a toujours encore beaucoup de préjugés anti-noirs, se fait quand même élire localement aussi, dans la France profonde, dans le Lot. Hein, il est conseiller général, président du conseil général, maire d'une commune française rurale. Donc cet homme, c'est indéniable pour qu'il soit arrivé à ce stade, c'est qu'il portait en lui quasiment toutes les valeurs de l'humanité. Bon, il a été résistant, il a touché à tout, hein, si c'était un mélomane, etc. Donc, il y a une grande fierté de la part des Guyanais de voir qu'un jeune, et c'est un exemple pour nous, de voir qu'un jeune, quand même, sorti d'un petit pays comme la Guyane, a pu atteindre les plus hauts sommets de la France. Donc, il y a une espèce d'admiration, je ne dirais pas vénération, mais une grande admiration par Monnerville. Il y a des lycées qui portent son nom, il y a son bus, etc. Dernièrement, il y a une exposition itinérante qui a tourné dans tous les lycées, dans toutes les écoles. Et c'est un repère, hein, le président de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, qui est un historien et qui a écrit d'ailleurs sur Monnerville, n'hésite pas à le qualifier d'Obama de la France.
Gaston Monnerville, je vous dis pas président parce que là c'est écrivain. Alors Gaston Monnerville, vous êtes le symbole de la réussite des Noirs par l'intégration. Est-ce que vous êtes d'accord ?
On n'est jamais un symbole et il est toujours prétentieux de prétendre l'être.
Mais c'est incroyable de voir que, justement, puisqu'il incarne dans une certaine mesure cette capacité d'intégration républicaine pour quelqu'un qui est issu de la diversité, d'un milieu populaire et qui comme ça, arrive aux plus hautes fonctions, c'est incroyable que aucun camp ne le revendique, que personne n'est même à des fins politiques usé son image.
Il est radical socialiste. Oui. Il s'est toujours revendiqué d'être radical socialiste et au Sénat, il a été élu. Porté au plus haut sommet parce qu'il était radical socialiste, et en particulier très fort, très puissant à l'époque. Bon, écoutez, c'est vrai, j'ai évoqué l'argument 62 de Gaulle. Mais on a vu d'autres cas en France, on a pu aller au-delà. Mmh. Au-delà d'une telle argumentation basée sur un refus au général de Gaulle. Moi, je connais quand même au Sénat, j'y suis, beaucoup qui se sont opposés au général de Gaulle et qui quand même ont fait toute leur carrière, à commencer par François Mitterrand.
Tout simplement, oui.
Donc, on revient encore à cette question, et j'ose pas, on n'ose pas. On n'ose pas dire que c'est à cause de sa couleur.
Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire ça?
Par une espèce de pudeur par rapport à lui-même. Mm. Parce que lui, il ne l'invoquait pas. Il n'a jamais voulu considérer que parce qu'il était noir, il était banni de la République. Au contraire, il se revendiquait d'être tel, et il remerciait cette République de l'avoir aidé, lui, surtout jeune, d'origine modeste et puis venant de loin, d'être arrivé au plus haut sommet. Il se disait que ça, il a pu l'atteindre que parce qu'il était français et qu'il était dans cette République française.
Ce qui m'attriste, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, quand je me suis penché sur le cas de Monerville, c'est qu'une des premières choses que je me suis dit en découvrant qu'il avait dirigé donc pendant 21 ans le Conseil de la République puis le Sénat, c'est que ce serait plus possible aujourd'hui. C'est la première chose que je me suis dit, c'est que je n'imaginerais pas aujourd'hui un homme noir diriger le Sénat. Est-ce que c'est juste ma lecture des choses ou est-ce que vous vous dites aussi qu'on a un petit peu reculé de ce point de vue-là?
Je veux pas le dire, hein, je veux pas m'engager comme vous à le dire. Mais bon, je crois que pour y arriver maintenant, il faudrait quasiment s'aliéner en tant qu'homme noir. Il faudrait peut-être mettre de côté tout ce que l'on a d'originel, d'original, de naturel, et chercher à se confondre dans une majorité dans laquelle nous ne partagerions peut-être pas toutes les mêmes valeurs. Bon, vous avez par exemple cet ouvrage de Fanon qui s'appelle « Peau noire, masque blanc ». Il faudrait, bon, quasiment avoir un masque blanc, si vous voulez. C'est-à-dire que même si on est noir, il faudrait qu'on rejette en nous tout ce qu'on a de noir et être blanc à 100%. Mais bon, on ne peut pas se régner en tant qu'individu. Bon, ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'il y ait une acceptation réciproque. Or, on a l'impression qu'on est arrivé à un stade en France où cette barrière, quand même, peut encore exister.
Monerville, lui, ne reniait pas du tout sa personnalité d'homme noir, on l'a dit, notamment dans son, je pense, ne serait-ce que son accent guyanais, on l'entendait encore, j'ai entendu écouter plusieurs de ses discours, il n'a absolument pas gommé son identité d'homme noir venu de Guyane.
Il l'a revendiqué, il ne l'a jamais nié, bien au contraire, il l'a toujours mis en exergue, mais je crois que même s'il était plus difficile de s'imposer ou de se faire accepter en tant que noir à l'époque, mais par le mérite, par la valeur, on pouvait y arriver, ce qui est son cas. Merci.
Alors, je sors tout juste du Sénat, de ma discussion avec Georges Patient et je suis pas reparti les mains vides parce qu'il m'a donné, son assistant m'a donné le numéro de téléphone de Philippe Martial, qui est l'ancien directeur de la bibliothèque du Sénat et qui, surtout, fait partie de l'association des amis du président Monerville, qui connaît assez bien pour cause. Il a vécu avec lui quand il était enfant. Je vais l'appeler tout simplement parce qu'apparemment il habite à côté du Sénat maintenant. Je vais voir si je peux aller le rencontrer.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Martial, prénom Philippe. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bon, comme mon coup de fil de tout à l'heure à Philippe Martial n'a pas fonctionné, entre-temps, il m'a rappelé pour me dire qu'il n'était pas à Paris, mais que je pouvais essayer de le joindre à nouveau par téléphone. Dans la journée, c'était pas garanti que j'arrive à l'avoir. Donc là, je l'appelle.
Allô ?
Oui, monsieur Martial ?
Ah oui, c'est moi-même.
Je vous dérange pas ?
Non, mais je suis dans la cathédrale de Bourges, il n'y a aucun bruit.
Je voulais juste que vous me racontiez, c'est qui pour vous, Gaston Monnerville ?
Oh ben, il s'est trouvé que c'était quasiment un membre de la famille. Il se prétendait mon oncle ou mon parrain, c'était absolument pas vrai. Peut-être à la mode antillaise, à la quatrième génération. Mais mon père et lui avaient fait leurs études ensemble, d'abord à Cayenne, ensuite à Toulouse. Monnerville étant plus jeune d'un an, donc toujours un an derrière. Je n'ai revu Monnerville qu'après la guerre, en novembre 1944, quand on a quitté le village où on s'était réfugié après la mort de mon père, un village de Normandie. Et Monnerville n'avait pas d'enfant, parce qu'après deux fausses couches, Madame Monnerville, on lui avait interdit de tomber enceinte. Et ma foi, bon, ben, j'étais un peu le fils de remplacement. Et il a été absolument admirable pour moi.
Quelle image, vous aviez l'image, vous aviez la compréhension de son importance au sein de l'État, on va dire, parce que c'était un personnage de premier plan.
Oh ben, c'est-à-dire que je crois que les hommes politiques savaient que c'était important. Cela dit, il y avait un épisode qui leur avait montré que Monnerville avait été bloqué dans sa carrière par le fait qu'il était c'était un homme de couleur. C'était en 52, les élections pour remplacer le président de la République. Normalement, la tradition, c'est que le président du Sénat était élu chef de l'État. Et là, Monnerville n'a pas voulu se présenter. Il voulait que son groupe, que ce soit son groupe qui le présente. Et son groupe de radicaux, tous jaloux les uns des autres, n'ont rien bougé. Or, un ancien député m'a expliqué qu'il fallait que tout le monde attendait cette élection. Alors, faute d'élire le président du Conseil de la République, de la Haute Assemblée, on a élu le vice-président René Coty.
Et c'est-à-dire que dès les années 50, en fait, Gaston Monnerville aurait peut-être pu être le premier président noir de la République.
Ah ben, d'après les autres groupes, ça leur paraît. Ils pensaient même que le parti radical allait présenter Monnerville. Oui. Et même Monnerville a été élu président du Conseil de la République. C'est pas du tout son groupe qui l'a présenté. C'est Maurice Schumann qui avait dit c'est le communisme qui va passer en mars 47 à la mort de Champtiéribe, le premier président du Conseil de la République. Mais il y a une douzaine d'hommes de couleur dans cette assemblée. Dans le secret des urnes, ils sont tous communistes ou apparentés, mais dans le secret des urnes, ils pourraient peut-être voter pour un des leurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est le groupe MRP et pas le groupe radical qui a présenté Monnerville.
Qu'est-ce qui fait que, selon vous, Gaston Monnerville, c'est un peu l'interrogation après laquelle je cours là depuis le début de cet épisode, qu'est-ce qui fait que, selon vous, Gaston Monnerville a disparu de l'histoire, de la grande histoire de la Ve République? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, qui ai fait des études d'histoire, qui suis journaliste, ne le connaisse pas?
Alors d'abord, il a été victime des gaullistes. Il a dit lui-même, je crois qu'il a pris la parole pour la première fois à la télévision, en 69, il a dit j'ai disparu des écrans depuis longtemps. C'était systématique.
Il avait été interdit de télévision. C'est ça ?
Ah oui, il était interdit de télévision et il n'existait plus. Mais écoutez, il y a même eu une époque, il a été accusé d'avoir fomenté l'attentat du petit Clamart.
Les tueurs frappent à l'heure du dîner. Ils ratent, mais c'est miracle. C'est le premier titre de ce journal du matin. C'est le titre que vous retrouverez, à quelques variantes près, à la une de tous les journaux. Je ne pense pas qu'il se trouve beaucoup d'auditeurs pour ignorer encore à cette heure-ci l'événement. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat.
Mais qu'est-ce qui fait que du coup, après ce passage à vide, on va dire dans les années 60, quand il revient un petit peu médiatiquement pendant le référendum de 69, malgré tout ça, son histoire n'est pas restée?
Bah écoutez, laisser un souvenir en politique, il vaut mieux être le patron d'une faction. Oui. C'est pas le cas de Monnerville. Alors, il ne peut pas être invoqué comme le saint patron d'un parti.
Est-ce qu'il se sentait oublié? Vous l'aviez revu à la fin de sa vie. Est-ce qu'il se sentait, lui, oublié? Quel regard il portait sur sa carrière politique à la fin de sa vie?
Écoutez, c'est un homme, c'est un peu un paradoxe. Quand il voyait quelque chose de mal, au lieu de dire c'est inévitable, il fallait justement intervenir. C'était un homme d'espèce d'activisme intellectuel et une volonté de faire le bien. Et ça, c'était, écoutez, c'est un modèle d'homme politique. Les Français portent maintenant un jugement épouvantable sur leur classe, alors ils dégagent tant qu'ils peuvent dans cette occasion. Mais la classe politique comporte des tas de gens bien, et elle avait même des saints. Et Monnerville est l'exemple même d'un saint.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur Martial.
Je vous en prie.
Et voilà. Monnerville, un saint politique. Bon, je ne pense pas qu'on puisse qualifier un homme politique de saint, quand même. Ce serait aller un peu loin dans la religion républicaine. Mais bon, on peut espérer qu'à force de réveil, comme c'est le cas un peu là, avec cette émission, ou comme ça a pu être le cas par le passé, on l'évoquait lors de l'élection d'Obama, à force de réveil, on finira peut-être par se rappeler un peu mieux de qui il était et de ce qu'il a pu représenter. Une forme d'aboutissement de cet idéal républicain qu'on nous vend beaucoup, qu'on a du mal à voir, à percevoir concrètement. Voilà, c'est pas mal d'avoir une image comme ça à laquelle on peut se référer de temps en temps. Merci à Kevin Donna, à Georges Patient et à Philippe Martial pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucune de nos aventures. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge.